Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi 17 janvier 2020. Le forum de la presse, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle en ligne pour analyser l'actualité de la semaine qui s'achève. Les principaux sujets tourneront autour de la sécurité au Sahel et particulièrement au Niger. D'abord, nous revenons sur l'attaque du jeudi 9 janvier contre le camp militaire de Shinagoder dans la région de Tillabéri. Vous suivrez les commentaires de nos confrères au sujet de la recrudescence des attaques contre les FDS nigériennes. Dans ce même chapitre, nous parlerons du remplacement de certains hauts cadres de l'armée nigérienne dont le chef d'état-major des armées. C'est une décision prise par le président de la République lundi 13 janvier dernier au matin, peu avant son départ à Pau en France. Et nous terminerons avec justement les conclusions de la rencontre de Pau en France entre les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron. Pour en discuter, nous recevons nos confrères Issa Amadougou, rédacteur en chef de la radio et télévision Ténéré. Issa, bonsoir.
Bonsoir Alassane.
Et Roufaye Dandoua, journaliste chroniqueur sportif. Roufaye, bonsoir.
Bonsoir Alassane.
Nous attendons d'un moment à l'autre Gary Amadou et Hussein Issa. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation. Jeudi 9 janvier passé, alors que le Niger pleurait encore ses fils tombés dans des attaques d'Inates et de Sanam, tous situés dans la même région de Tillabéri, une autre attaque, celle du camp militaire de Shinagoder, vient endeuiller à nouveau le pays tout entier. Le premier bilan officiel faisait état de 25 tués côté ami. Ensuite, un deuxième bilan revu et communiqué, ce dernier fait état de 89 soldats tués et 70 terroristes éliminés. Alors, je commence tout de suite par vous, Issa Amadougou, rédacteur en chef à la radio et télévision Ténéré. Quelle est l'analyse globale que vous faites de la succession de ces attaques les plus meurtrières au Niger en seulement un mois d'intervalle?
Merci, Alassane. La situation sécuritaire dans le nord de Tillabéri a été longtemps alerté, les gens ont eu à alerter les autorités par rapport à ce qui nous guettait. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir si on essaie d'aller en arrière, parce que c'est une situation un peu complexe qui trouve ses racines juste après la fin de l'opération Serval au Mali. Parce que c'est en ce moment que l'opération Serval a fait le ménage contre les groupes djihadistes. Il y avait eu Barkhane qui était venu prendre la relève. Mais à ce temps-là, c'est le gouvernement malien n'était pas présent dans toute la partie qui borde le Niger. Pratiquement, c'est dans les postes de Indeliman, un peu à Lapsenga qu'ils sont, mais dans le nord, pratiquement, il n'y avait pas d'État malien. Donc, en ce temps, le Niger aussi était dans une posture de défendre l'intégrité de son territoire pour prévenir les attaques. Mais qu'est-ce qui a été fait en ce moment? Le Niger avait signé des accords avec des groupes armés non étatiques à caractère ethnique du Mali pour sécuriser la frontière. Et c'est les agissements de ce groupe qui ont porté un coup dur dans la cohésion sociale et autrement qui ont radicalisé plus d'un parmi des jeunes dans ces communautés. Alors, depuis cette époque, les gens se sont levés pour dire « Ok, faites attention pour éviter cette radicalisation. Cette stigmatisation communautaire en train de prendre des ampleurs et nous risquerons d'avoir un résultat pas du tout réluisant dans les années à venir. » Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Quoi qu'on dise, aujourd'hui la situation, elle est critique. Mais qu'est-ce que nous faisons concrètement, nous comme État, pour contrer? Parce que la stratégie même qui est adoptée aujourd'hui au Niger laisse à désirer.
Quelle stratégie?
Le fait d'attendre qu'on nous attaque pour riposter.
Le Burkina Faso. L'approche défensive, vous voulez dire?
Oui, tout à fait. Parce que le Burkina Faso est dans la même position que nous. Le Burkina Faso aussi a pleuré des centaines et des centaines de leurs enfants qui sont tombés lors de ces attaques. Mais depuis un certain temps, on a vu que le Burkina a revu sa manière d'affronter la situation et ils ont opté pour l'offensive parce que les attentes
aller
les dénicher là où ils sont avec vraiment sur place. Il faut aussi mettre un accent particulier sur avec les moyens qu'il faut parce que il faut du matériel de guerre, parce que vous ne pouvez pas, un soldat ne peut pas affronter avec une Kalachnikov quelqu'un qui vient t'attaquer avec des RPG, des pièces et des mitrailleuses. Donc, ça va être un peu compliqué.
Mais ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est qu'en moins d'un mois, nous avons eu, en tout cas, des attaques des plus meurtrières, en un mois, 3 attaques. Et comment comprendre, en tout cas, cette regain et cette recrudescence et cette...
Il devrait avoir aujourd'hui une méthode préventive. Parce que, par exemple, prenez le cas d'Inates. Le 1er novembre, il y avait eu l'attaque d'Indeliman. Un groupe armé a attaqué le camp d'Indeliman sur le territoire malien. Ils ont pris de l'armement. Ils ont pris assez d'armement là-bas. Ils ont dépouillé ce camp. C'est que c'est à une dizaine de kilomètres d'Inates. Mais c'est que les gens devront se dire, mais alors, s'ils ont pris ici... Ce qui veut dire qu'ils ont le matériel, ils vont se retourner contre nous. D'ailleurs, même dans la zone, c'est ce qui se disait, les populations qui étaient dans la zone. Heureusement, eux, ils ont compris cela. C'est pour cela que beaucoup de gens sont quittés la zone bien avant. Le cas de Chinagodern, la veille, le mercredi, dans un village qui s'appelle Agombulu, dans les parages, dans le marché, les gens ont vu qu'ils étaient venus passer. Ils ont alerté. Alors, qu'est-ce qui explique le fait qu'on alerte? Si les populations civiles peuvent avoir l'information jusqu'à nous aujourd'hui sur à travers les réseaux sociaux qu'un groupe de motards
est en train de circuler dans une zone
ou qui est proche de nous, si nous pouvons, pourquoi l'armée ne peut pas avoir cette information? On ne peut pas nous dire que l'armée n'a pas cette information et prendre les dispositions.
Rufai Dandoua, alors quelle est votre analyse par rapport à ces attaques, en tout cas, qui continuent d'endeuiller le Niger?
Je crois qu'après ce qui s'est passé, on doit se dire qu'on est en guerre. Le président l'a dit. Et lorsque un État est en guerre, il faut que tous les moyens soient mis à disposition de tous ceux qui doivent défendre le territoire pour que la victoire soit de notre côté. Et pas que aussi les militaires, il faut que toute la nation se mette dans les dispositions de défendre le territoire. Or, c'est ce à quoi on n'assiste pas aujourd'hui. Quand vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quand vous voyez ce qui se passe un peu partout, on n'a pas l'impression que la population a pris conscience du fait que le danger est là aux portes du Niger. Peut-être que parce qu'on n'a pas vu que cela est arrivé dans la capitale comme c'est arrivé au Burkina Faso. Moi, je me rappelle, on a discuté ici et les autres vont le confirmer. Quand je disais qu'on est en insécurité, les gens croient que l'insécurité, elle n'est pas ici, donc elle est ailleurs, ils ne se sont pas rendus compte. Issa l'a dit tout à l'heure, et c'est vrai, lorsqu'on attaque des villages qui sont environnement ou comme les villages qui ont été attaqués avant Chinagodern, donc il faut qu'on se mette dans les dispositions telles que nos forces de défense et de sécurité se mettent en état de défendre la nation. Je ne dis pas
Lui, Issa, il soulève le fait que nous sommes, en tout cas l'armée nigérienne en quelque sorte, et tout sur une stratégie défensive et non offensive.
Moi, je ne suis pas un militaire, je ne suis pas un spécialiste de guerre, je ne sais pas si ça a été fait ou ça n'a pas été fait, je ne sais pas s'ils ont été surpris ou non, mais je pense qu'ils devraient être prêts. Il faut être prêt. On ne peut pas attaquer des gens qui viennent en nombre avec des Kalachnikov, on est d'accord, il faut être prêt à intervenir, mais il faut qu'on se mette dans les dispositions. Il faut qu'on se mette en tête que cette guerre, ce n'est pas une guerre où on vient t'informer qu'on va venir faire une guerre. C'est une guerre, comme on a dit, asymétrique, où l'ennemi attaque par surprise. Bien. Donc, lorsqu'on va t'attaquer à surprise, tu dois être dans les dispositions d'être prêt que quand tu es attaqué, tu vas te défendre, même si tu ne vas pas à l'offensive. Parce que même en étant à l'offensive, par exemple, où est-ce que tu vas aller déloger?
Il faut être prêt.
Il faut savoir où déloger l'ennemi.
Quand où mettre le pied.
Quand tu ne sais pas où le déloger, donc il faut que tu sois dans les dispositions ou telles que quand il vient, tu saches comment te défendre. Peut-être que cela n'a pas été le cas. C'est pour ça qu'on a rencontré près de 200 morts en un mois au Niger, ce qui est déplorable.
Nos deux confrères viennent de nous rejoindre, à savoir Gare Amadou et Hussein Issa. Ousseini, nous sommes sur ce sujet, ces attaques en tout cas répétitives. En un mois, le Niger a subi 2-3 attaques meurtrières, Inates, Sanam et Chinagodern. Les unes en tout cas meurtrières que les autres. Comment vous expliquez en tout cas cette recrudescence?
Dans le cadre d'une guerre, c'est ceux qui vont à l'offensive qui gagnent, pas ceux qui restent sur la défensive. Tout le temps, on dit qu'ils viennent du nord Mali, du septentrion malien. Ils viennent, ils attaquent des casernements militaires qui sont quand même solides. Ils viennent à défaire ces casernements-là. Et ils retournent tranquillement. Ils vont où? Parce qu'il n'y a pas de base reconnue dans le nord Mali, occupé par ces djihadistes-là.
Ni encore au Niger.
Ni encore au Niger. Par conséquent, moi j'ai dit, il faut passer à l'offensive. Il faut ratisser. S'il faut ratisser le nord malien, il faut ratisser le nord malien. On trouve un seul pistolet dans une case ou dans un... Il faut détruire tout. C'est une question de simple logique. Il ne faut pas attendre chaque fois qu'on vienne vous tuer. C'est après les tueries que... Non, je suis désolé. Ils n'ont pas de formation militaire, ces gens-là qui viennent nous attaquer. Et qui font des dégâts. Et qu'on observe entre Inates, ouais. Le 10 décembre.
10 décembre.
Ensuite, le 23, il y a eu comment dire, l'embuscade tendue contre une mission de la CENI,
ouais.
Dans la région de Sanam.
Ouais.
Ensuite, maintenant, le 9, comme par défi, ils viennent, ils tuent. C'est le nombre qu'on a donné. Dans un premier temps, on a dit 25.
Ensuite
c'est passé à 89. Nul ne sait exactement le nombre. Est-ce qu'on doit continuer quand on est des pays souverains? Macron leur a dit ça. Prenez vos responsabilités. Vos pays là, vous êtes des pays souverains, défendez-vous. Ce n'est pas tenir compte ou penser que quelqu'un va mobiliser d'importantes forces pour venir vous défendre. On dit qu'on est là, on attend, on tue, on déplore. Il y a l'émotion, après l'émotion passée.
Gare Amadou, l'une des défenses du Niger, c'est cette stratégie de défensive.
En tout cas, l'initiative de la guerre, pour le moment, c'est les terroristes qui l'ont. Hein. C'est parce que c'est eux qui traversent la frontière pour venir nous trouver, frapper et retourner. C'est vrai qu'il y a des offensives qui sont menées, des opérations, notamment l'opération Dongo, etc. Ouais. etc. Mais apparemment, ce sont des opérations qui ne dissuadent pas les terroristes. Bien avant l'attaque d'Inates, la veille, déjà, il y avait eu une attaque à Gando.
Vous savez,
attaque. Déjà, à Gando, c'était presque une diversion pour moi. Donc, ces gens-là, ils se préparent en avance. Et c'est vrai que continuer à rester sur la défensive n'est pas une posture vivable. Elle n'est pas viable à long terme. Il faut bien que, grâce à ce réaménagement-là qui va s'opérer suite au sommet de Pau, n'est-ce pas, la coordination entre l'opération Barkhane et maintenant le G5 Sahel, peut-être que cette réorganisation va permettre d'avoir peut-être des résultats. Et surtout, de faire une offensive. Quelqu'un m'a dit que non, en fait, l'attaque de Shinagoda, c'était en perspective, parce qu'il y avait des opérations qui se préparaient. Vous comprenez? Il y avait une offensive qui se préparait. Les terroristes ont voulu peut-être un peu déstabiliser le processus. Mais il est indéniable que nous ne pouvons pas continuer tout le temps à subir. Et je pense que l'autorité politique a compris qu'il faut qu'il y ait une courbe, en tout cas, qui change. C'est pour cela peut-être que la nouvelle hiérarchie militaire a été installée. Une hiérarchie militaire qui sera...
C'est dont nous allons parler plus tard.
Mais voilà. Ce que j'ai dit, ce que vraiment on a eu assez de morts, c'est vrai, 89 morts, mais je pense qu'il faut remotiver aussi les soldats.
Selon un communiqué du commandement de la force Barkhane, lors de cette attaque de Shinagoder, les mirages français ont appuyé l'armée nigérienne à repousser l'assaut. Information que l'on retrouve d'ailleurs dans le communiqué du gouvernement nigérien qui soulignait un appui aérien des forces amies. Au Niger et dans d'autres pays membres du G5, on se rappelle, en tout cas certains observateurs ne comprennent pas que leur armée soit l'objet d'attaques spectaculaires malgré la présence des forces alliées étrangères équipées de technologies et de détection de mouvements. Comment comprendre cette nouvelle donne, en tout cas, et quelle appréciation vous en faites?
Pour moi,
En fait, il y a
un concours de circonstances qui fait que la France est obligée de changer de tactique. C'est-à-dire que l'attentisme, là, finalement, va nuire aux intérêts français. La France a compris que si les touristes continuent à gagner du terrain, n'est-ce pas, ce sont ses intérêts à elle-même qui vont être, en tout cas, en péril. Quand on voit ce qui se passe sur le plan du franc CFA, quand on voit ce qui se passe sur le plan des critiques contre les bases étrangères, eh bien, la France se dit que non, il faut que je donne des bons signaux. Il faut que je montre que ma présence, même s'il y a des calculs, ça va quand même aider les pays à lutter contre le terrorisme. Parce qu'il n'y a pas de pays qui n'a pas d'intérêt, c'est clair. Donc la France a compris qu'il faut que la population, l'opinion publique, qui est très critique, parce que Macron l'a dit quand il est parti à Abidjan, on a déjà dit ça sur ce plateau, c'est pas que les gens sont contre les bases militaires, en réalité. C'est l'inefficacité des bases militaires qui fait que les gens demandent qu'ils partent. Donc, je pense qu'il y a un changement qui est en train peut-être de s'opérer.
Je ne comprends pas rapidement. Au-delà de la présence des bases militaires, qu'elles soient françaises ou américaines, dans le Sahel, moi, ce que je ne comprends pas, c'est l'inefficacité aussi de nos avions. À un moment, on nous disait qu'on avait acheté, qu'on a mis beaucoup d'argent pour acheter des avions. On nous a montré des avions. À quoi servent nos avions si si ces avions-là ne peuvent pas
décoller
pour aller frapper les djihadistes qui viennent pour attaquer. À quoi servent ces avions s'ils ne peuvent pas décoller en un temps record? Puisque la dernière fois quand il y avait eu des attaques, ça a pris 4 heures de temps avant d'amener des secours à nos militaires. Donc je me dis qu'ils ne servent à rien. Tout le collectif budgétaire qui a été revu pour augmenter le budget de la défense qui est monté à 25% pour acheter des avions, pour acheter des armements, avoir une armée qui est la 3e de l'Afrique de l'Ouest, qui est la 10e de l'Afrique. À quoi ça sert si ces avions ne peuvent pas décoller? Si nous-mêmes, on ne peut pas nous défendre nous-mêmes avec nos avions, avec l'argent du contribuable qu'on a mis pour défendre le territoire, donc si les autres, que ce soit les Français ou les Américains, ne l'ont pas fait, pourquoi leur en vouloir? C'est quand nous-mêmes, on arrive à nous défendre.
Donc pour vous, il faut mettre
C'est en ce sens que les amis vont nous venir en aide. Et Macron l'a dit, qui l'a rappelé, c'est Hussein, il a dit, vous êtes des États souverains, allez vous défendre vous-même. Nous, on va venir en appui.
L'argent Rufai, on l'a mis, c'est que l'État même n'a pas pris le soin de faire de l'efficacité de la défense une réalité dans le secteur de la défense. 19% du budget, on ne peut pas nous dire quand même qu'il y a du matériel qui manque. Mais par rapport à ce communiqué de Barkhane, nous avons recueilli des témoignages des gens. Les soldats nigériens qui étaient là-bas.
Ils les ont poursuivis ?
Non, ils ont résisté. C'est les populations même de la ville. Ils disent que nos soldats ont résisté. Mais ils ont remarqué que ces gens qui ont attaqué avaient des armes là qui font du feu. C'est-à-dire, ils parlent des RPG. Ils n'ont pas la main. Ils disent que c'est ça qui a beaucoup fait mal
dans
les camps militaires. Donc, on ne peut pas nous dire qu'ils ont appuyé. Ils n'ont pas appuyé. Nos soldats, ce sont nos soldats qui ont combattu. Bien. Et Dieu faisant les choses, c'était leur dernier jour pour certains. Ils sont morts sur le front dignement, mais ce n'est pas Barkhane. Barkhane n'a rien apporté. Et c'est ça même que pourquoi aujourd'hui, les gens sont frustrés contre l'État nigérien. Alors, que si l'État nigérien se mette...
Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il s'est dit. Nous sommes une armée régulière, une armée qui a été bien formée. Et qu'on me dise que notre armée a résisté face à des gens qui ne savent... qu'on dit ne même pas savoir utiliser les armes.
Il y a des études qui ont montré qu'entre 2018 et 2018, on a failli. Il y a plus de 2000 jeunes qui étaient dans les camps d'entraînement en Libye. Cette zone s'embrase aujourd'hui? C'est parce que ces jeunes-là qui étaient partis, qui se sont radicalisés, qui sont partis s'entraîner dans les camps des djihadistes de l'État islamique en Libye, sont de retour. Tout le monde le savait.
Je le disais en début, le remplacement majeur en Conseil des ministres de la hiérarchie militaire et nigérienne, un décret signé par le chef suprême des armées, le président Issoufou Mamadou, lundi 13 janvier, donc peu avant son départ à Pau en France pour le sommet. Quelle lecture Hussein Issa vous inspire cette décision de l'exécutif nigérien? Est-elle opportune?
Oui, mais moi je pense que un peu partout dans le monde, quand les choses se passent comme ça, quand on tue des militaires, en tout cas, c'est qu'il faut des sanctions. Il ne faut pas seulement se contenter de faire le constat pour dire on a tué tel nombre de soldats, on a tué tel nombre, nous avons tué. Parce que moi, je suis contre cette façon de comparaison. Ils nous ont tué tel nombre de soldats. Nous aussi, nous avons tué tel nombre. Non. Une armée, un pays, tu n'as pas à faire ce genre de comparaison. Ça n'a aucun sens.
Entre ce que nous
avons tué comme éléments djihadistes et ce qu'eux, ils ont tué.
On a fait les remplacements au niveau du chef d'état-major.
Moi, je dis quelque part, partout ailleurs, c'est par là que j'ai commencé. Partout ailleurs. C'est que sur le plan politique même, des sanctions doivent tomber. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de dégommer quelques têtes au niveau de la hiérarchie militaire. Il faut aller en profondeur.
Quand vous dites en profondeur,
c'est-à-dire que, honnêtement, ces têtes qui ont été les chefs d'état-major général des armées, c'est quelqu'un qui devait aller bientôt à la retraite dans 6-7 mois. D'après les informations que j'ai, moi, il semble qu'il a même demandé à quitter, quoi. Un peu plus tôt, il a décidé.
Donc pour vous, ça n'est pas tellement...
Mais moi, j'ai dit, il faut sanctionner au plus... Et pas sanctionner à l'instant ceux qui sont actuellement, qui ont pris la patate chaude. Il faut sanctionner en amont.
Avec en amont, vous voulez argent, dire des anciens
ceux qui ont géré un peu le ministère de la Défense, qui ont géré de l'argent, les collectifs budgétaires, tout ça... Rouvet vient de le dire. Non, la sanction, ce n'est pas seulement une sanction au niveau juste de la hiérarchie. Il faut aller jusqu'en haut. Parce qu'en haut, il y a des gens qui ont sur comment l'argent a été géré, il faut aussi qu'ils rendent des comptes. On ne peut pas se contenter juste de frapper, peut-être parce qu'ils sont tout simplement dans la hiérarchie, on se contente de les sanctionner et penser qu'on a fini avec. Non, ce n'est pas une affaire de business, c'est une affaire de vie.
D'accord, Issa, est-ce qu'avec ce changement à la tête, en tout cas de ses têtes, est-ce qu'on peut s'attendre à un changement dans la...
Moi je dis, il ne sert à rien de changer pour changer. C'est-à-dire pour juste montrer, parce que ça commence à devenir, ça commence à monter un tollé d'incompréhension. Comment un pays peut être attaqué comme ça de façon régulière par des gens qui sont en Galabia? Comment on peut concevoir ça alors qu'il y a une armée régulière dans des bases qui sont là? On vient des gars en Galabia en moto.
C'est à ça que je dis que je ne suis pas d'accord qu'on dise que notre armée a résisté face à des gens
bien.
En Galabia.
Garé Amadou, voilà. Garé, quel changement on peut s'attendre dans les jours à venir?
D'abord, l'effet immédiat, c'est que je crois que ce changement au niveau de la hiérarchie militaire va permettre d'abord, en tout cas, de remonter le moral des troupes. Parce que vous savez, cette information-là, elle va parvenir au niveau des soldats qui se disent que non, il y a un nouvel état-major qui a été installé. Et donc, forcément, il y a une nouvelle dynamique qui va être déployée. Parce que l'homme qui a été nommé chef d'état-major des armées, c'est quand même quelqu'un qui a fait ses preuves pendant la rébellion. En 2008, il était commandant de zone à Agadez. Donc, au plus fort moment de... Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une expérience guerrière qu'il peut apporter, en tout cas, pour faire en sorte que, que la peur retourne au niveau de djihadistes. C'est vrai, ce que Hussein dit est vrai. C'est-à-dire, c'est incompréhensible. Parce que quand on me dit que non, les terroristes sont venus avec du matériel, des ordres de Staline, comment peut-on concevoir que des terroristes sont plus armés que des États? Mais comment vous pouvez comprendre? C'est pas possible. Le défi pour le nouveau chef d'État-major et son équipe a, je pense, plusieurs défis. Le premier défi, c'est le défi de la mobilisation encore des troupes. Le deuxième défi, c'est le défi en moyens d'armement. Et aussi, les gens l'ont dit ici, tant qu'on n'a pas de moyens aériens, il ne faut pas passer par quatre chemins, on ne gagnera pas la guerre. Il faut des moyens aériens, c'est ça qui va faire... les terroristes maintenant sont au courant. Mais si ce n'est pas que les avions de Barkhane ont décollé, ils ont dit qu'ils ont fait Razmout pour leur faire perdre d'abord, après ils ont bombardé. Mais les terroristes savent qu'ils peuvent venir attaquer un camp militaire nigérien. Il n'y aura pas d'avion qui va venir. Ils savent qu'on est toujours dans le schéma classique. Oui, il y a une attaque. Bon, oh, allez, on met du carburant dans le véhicule. Allez, puis tout le monde, on rentre dans le véhicule et puis on met 3 heures de temps pour arriver au camp. Ils savent ça. C'est tellement évident, c'est prévisible. Donc, il faut que ça finisse ça. C'est-à-dire, le défi pour lui, donc, c'est les moyens militaires et surtout les moyens aériens dont tu dois douter. Le troisième défi, c'est le défi de la communication. Hussein dit que, bon, il n'est pas d'accord sur le fait qu'on dise qu'on a tué. Non, la guerre aussi. Ce n'est pas seulement les opérations militaires, c'est aussi la communication.
Parce qu'on a vu que sur les réseaux sociaux, en tout cas, il y a des rumeurs, il y a des informations souvent non vérifiées. Il y a plein de choses qui circulent pendant ces moments.
Il y a deux choses. Il faut la réactivité de l'armée en matière de communication. C'est-à-dire ne pas laisser les rumeurs se répandre. N'est-ce pas? Donner la bonne information. Si vous partez et que vous neutralisez des terroristes, mais bon, ça, montez les images des véhicules que vous avez détruits. S'il y a des terroristes qui sont tués, montrez-les. Ça va redonner confiance au peuple. Ça va donner confiance au... Mais... Nous, chez nous, tout est secret. Même quand on tue un terroriste, on considère que non, montrer le corps d'un terroriste. Mais par contre, eux, les terroristes, ils savent ce que c'est la communication.
Ils font des vidéos.
Ils font des vidéos, ils montrent les corps de nos soldats. Nous sommes à l'arme. Ils filment avec les téléphones portables les attaques. Après, ils font des montages.
Défi, en tout cas, en termes d'équipement, en termes de mobilisation des troupes et de communication.
Voilà.
Rufai Dandoua.
Déjà, en nommant le général Modi, il doit donner un signal fort. Vous vous rappelez, lorsque Boko Haram attaquait beaucoup le Nigeria, quand il y avait le nouveau chef d'état-major, il est allé sur le terrain. Rapidement, il a rassemblé les troupes, il est allé sur le terrain pour donner une information. Ça aussi, c'est ça la communication. Aujourd'hui, il est nommé, il est là.
Donc c'est ça que Garé disait, la mobilisation des troupes.
Oui, il est là, mais enfin, il faut qu'il prenne un temps pour consulter.
D'accord.
Et puis qu'on lui donne la latitude de nommer, enfin, voilà, ça c'est clair.
Il y a eu même la passation.
Donc,
je pense
qu'on n'a jamais montré qu'il y a pas passation entre les militaires.
Ça, c'est la personne. Mais est-ce que déjà l'acte de faire partir, oui, en tout cas, des responsables de la hiérarchie pour amener d'autres,
dans d'autres pays,
déjà,
tu n'attends même pas qu'on te fasse partir. Mm-hmm. Vous voyez, c'est toi. Je me rappelle, et le chef d'état-major, je crois, en France, il a contredit Macron, il a démissionné le monsieur. Ou bien on te fait démissionner toi-même. Mais lorsque toi-même tu es là, tu ne démissionnes pas, tu es là malgré tous les morts qu'il y a eu au Niger. Personne n'a démissionné parmi les militaires, personne n'a démissionné au plan politique. Maintenant qu'on a fait ça, je pense que c'est quelque chose de bien, mais est-ce qu'il va faire quelque chose de bien tant qu'il n'a pas les moyens? Je ne sais pas. Il faut que ce changement soit suivi des faits, qu'on mette les moyens à sa disposition, qu'on n'attende pas que ce soit des voitures qui vont aller secourir ou apporter un appui aux militaires qui sont attaqués. Regardez, donc il faut que nos avions qui ont été achetés, je crois on avait deux ou trois.
Est-ce que ça marche maintenant? Ça dit, tout le problème est là, mais est-ce qu'on a des avions?
Ça,
c'est un problème.
Non, il faut que ces avions soient réparés. À un moment, on a dit qu'ils ont été réparés. Il faut que on mette ça à la disposition de l'armée à chaque fois
qu'il puisse y avoir des pilotes nigériens.
Maintenant qu'on passe qu'on ratisse comme l'avait dit Ousseini, maintenant c'est ça la démonstration de force, la première démonstration de force qu'on montre qu'on est là et qu'ils sentent que nous aussi on a la capacité de les frapper, d'aller les terrer où ils sont et les tuer.
Mais c'est bien de changer, mais est-ce qu'on va lui donner vraiment la capacité d'être vraiment à la hauteur de cette mission?
Qu'est-ce que vous voulez dire là?
Est-ce que tous les moyens seront mis à sa disposition, les marges de manœuvre, la politique qu'on va dire voilà d'adopter, parce qu'il faut ça, parce que ça dépend aussi, un chef d'état-major il est là, mais il y a une vision politique qu'il doit défendre, mais est-ce qu'aujourd'hui cette vision politique contre le terrorisme adopté par le Niger répond aux réalités du terrain? Parce que c'est ça. Aujourd'hui, tout à l'heure, quand j'entends l'aîné Hussein dire que les gens sont djellabia, c'est ça aujourd'hui notre erreur. Nous sommes en train de les sous-estimer, ces gens-là. Et il y a plusieurs cas d'études qui ont démontré que ces gens-là ne sont pas ceux-là que nous aimons. Quand ils font une attaque, ils réfléchissent. Ce n'est pas un bon matin qu'ils décident de faire une attaque. C'est après une étude bien approfondie avec leurs agents qu'ils ont déjà infiltré les zones qu'ils font là. C'est après qu'ils font l'attaque. Donc, ce qui veut dire que, avant même de sanctionner les responsables, moi, c'est pour cela que j'ai dit, c'est pas suffisant. Ou parce que dans cette guerre, c'est le renseignement qui prime. Quand l'information arrive, l'information doit être traitée. Alors, si on sanctionne, on va aussi renseigner ceux qui ont la charge de renseignement. Parce que c'est ça.
Les renseignements militaires.
Militaires. Parce que peut-être qu'il y a une défaillance.
Il va finir.
Il faut qu'il ait il faut que ça soit rétroactif dès qu'il a l'information. Parce que c'est ce qui est incompréhensible dans cette situation. On dit, on a vu des gens ici. Il y a de l'information qui circule, même au niveau des civils. On dit dans telle localité, il y a tel nombre de motos qui ont été vues, suivies de véhicules. Et paf, un beau matin, le lendemain, on entend qu'ils ont attaqué une position militaire. Donc c'est ça que les gens n'arrivent pas. Normalement, si cette information est venue jusqu'aux civils, cette information doit forcément passer par les militaires.
En plus des défis cités par Gare, il y a ces défis aussi des renseignements.
Le renseignement, parce que quand vous avez le renseignement, ces gens-là, vous avez vu le Burkina. Quand le chef d'état-major, tout à l'heure, quand il a été changé, celui-là qui est là, vous l'avez vu, c'est un homme de théâtre. Il est toujours sur le terrain. Et quand il est parti, vous avez vu comment on a renforcé le matériel de toutes ces armées. Les forces ont été multipliées. Ils sont en train de converger pour encercler la zone. Et chaque jour, c'est des victoires. Et la communication, là, Gare, je suis entièrement d'accord. Il faut qu'il y ait de la communication. Parce qu'eux, ils communiquent. Quand on a dit, le gouvernement a fait le premier communiqué provisoire. Yeah. Parce que, comme d'habitude, au Niger, provisoire, ça devient définitif. Quand ils ont fait leur communiqué, ils ont dit qu'ils ont tué beaucoup de terroristes. Et c'est avant même qu'on confirme les 89 qu'ils ont posté leur vidéo pour montrer. Et c'est ça qui a choqué les Nigériens, les corps de nos militaires. C'était choquant de voir. C'est pour cela que le gouvernement aussi doit miser sur la communication. Communiquer à temps réel avec les Nigériens. À ne pas vraiment se cantonner sur le provisoire qui devient définitif. Si on n'a pas besoin de ce que quelqu'un nous informe. C'est l'armée qui doit, tout ne doit pas être secret dans cette guerre. Il faut dire, on a tué tel nombre de terroristes. Montrer les corps, puisque eux, ils sont capables de montrer les corps de nos soldats.
Mais on sait que ces gens-là, ils ont des agents parmi eux, en tout cas qui ramassent, c'est des gens qui sont spécialisés pour ramasser les corps.
Mais à quoi servent les avions
les corps de l'Assad.
Mais c'est ça le problème. Mais, comment, mais il faut les empêcher de ramasser, de partir.
Oui,
bien. Il faut les liquider. Mais c'est ça la question. Mais c'est clair.
Ce que je veux dire, c'est qu'on est sous... quand on dit les gens en Jalabia, c'est pas qu'on les sous-estime. Avant, on les appelait les fous d'Allah. Parce qu'ils crient Allahu Akbar et les attaquent. C'est pour dire que si eux peuvent avoir la capacité, si ces gens qui viennent en Jalabia peuvent avoir la capacité d'avoir des informations pour venir attaquer des bases militaires, nous, une armée régulière censée être une armée qui a tout, on doit aussi avoir ces informations. On l'a toujours dit sur ce plateau qu'aujourd'hui, on ne peut pas gagner la guerre moderne sans renseignement. Mais c'est pour ça qu'on dit que les armées modernes sont bien...
Oui,
donc maintenant, nos militaires ne doivent pas être des généraux de salon, ils doivent être des généraux sur le terrain pour
merci.
Aller...
Rufai, nous allons aborder le dernier sujet, la rencontre justement de Pau en France. Cette réunion qui était déjà reportée, vous vous rappelez, s'est tenue finalement avec les 5 chefs d'État des pays membres du G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron. Les 5 chefs d'État du Mali, du Niger, de la Mauritanie, du Tchad et du Burkina Faso ont affiché leur souhait de la poursuite de l'intervention militaire de la France au Sahel pour lutter contre le terrorisme. Et le président Macron, en tout cas Emmanuel Macron, a annoncé quant à lui l'augmentation de l'effectif de la force Barkhane avec 220 hommes, en tout cas supplémentaires. Qu'est-ce qui retient particulièrement votre attention à ces sujets? Est-ce que l'augmentation des effectifs de la force Barkhane peut-elle changer la donne de la lutte contre le terrorisme quand on sait que Barkhane, c'est en tout cas c'est plus de 4000 soldats déjà.
Moi, je ne suis pas naïf. Hein. Il faut, comme l'a dit le président, Macron, il faut qu'il y ait plus de Barkhane. Mais peut-être qu'il faut changer de stratégie de guerre. Tout le monde sait. Hein. Et il ne faut pas qu'on se leurre. Et on peut rester à la maison et dire que non, telle personne ne fait pas ci, telle personne ne fait pas ça. S'il n'y avait pas eu, je prends deux exemples, seulement pour étayer mes propos. S'il n'y avait pas eu les forces étrangères, Bamako serait déjà pris par les terroristes. Ça, c'est clair. On peut dire ce qu'on veut. S'il n'y avait pas eu les forces étrangères, Déby ne serait pas président. Lorsqu'il avait eu chaud, je me rappelle une fois quand les rebelles avaient été au port de N'Djamena.
Ils étaient, ils ont encerclé son palais.
Ils étaient au port de N'Djamena. Il a fallu qu'il appelle les forces étrangères pour. Il ne faut pas qu'on nous prenne aussi pour des petits enfants. Eux-mêmes appellent à l'intervention des forces étrangères. Maintenant, c'est comment canaliser toutes ces forces, comment mettre ensemble les forces étrangères, les forces du G5 Sahel pour aller déloger tous ces terroristes qui sont en train de décimer la terreur dans nos pays.
Houssaine Issa, qu'est-ce que vous retenez de la rencontre de Pau entre les
chefs d'État?
Avant de parler
de la rencontre de Pau,
je suis désolé, Houssaine, nous n'avons pas le temps.
Il les a convoqués, ils sont allés répondre. Ils ont tous dit qu'ils sont d'accord que la Barkhane, plus de Barkhane.
Et ça, on est au courant déjà avant qu'ils ne partent.
Voilà.
Mais déjà, on annonce en tout cas des effectifs supplémentaires pour la force Barkhane.
220 soldats qui vont venir. Mais Barkhane aussi dépend. Barkhane dépend des États-Unis qui menacent de retirer. Ouais. Parce que c'est les États-Unis qui ravitaillent les avions en l'air de Barkhane. Mmh. C'est les États-Unis qui fournissent les renseignements à Barkhane. Macron n'a pas fait mistake de ça, il l'a dit, il l'a reconnu clairement. Ça veut dire que c'est une affaire qui concerne tout le monde. Avec les retraits éventuels de troupes américaines, ça veut dire que Barkhane va être fragilisé. Parce que quand les avions décollent, les Mirages là, ils sont ravitaillés en l'air, en carburant par des avions américains. Le déploiement des troupes sur le terrain, c'est des avions américains qui assurent ça.
C'est ça l'inquiétude. Sinon, quand même, le Barkhane aussi.
Je ne dis pas. Ils ont fait ils font leur travail. Lui, Macron, il est venu, il a intimidé nos chefs d'État. Il les a menacés.
Il ne faut pas infantiliser.
On va les laisser finir.
Non, laisse-moi finir.
Rapidement,
Houssaini. Regardez. Dans des pays où pratiquement toutes les 48 heures ou les 112 heures, il y a des morts de soldats. Et que les 13 morts dans un accident d'hélicoptère, les gens se déplacent pour aller déposer des gerbes de fleurs. Il n'y a aucun officiel qui est venu ici pour déposer.
Macron était venu et après, c'était une coïncidence.
Bien, bien, garé Amadou, garé.
Non, en fait garé,
qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre de Pau et de ce qui, en tout cas, qui pourrait faire changer quelque chose dans cette guerre contre le terrorisme?
Je pense que le sommet de Pau est quand même, moi je considère ça comme un tournant. C'est-à-dire que, d'abord il se tient en début d'année. Je pense que cette année-là, c'est là une année charnière dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je crois que les chefs d'État qui sont partis, ils ne sont pas partis pour rien. Vous avez vu, avant le sommet, Ibeka a autorisé une manifestation chez lui où des milliers de Maliens sont sortis de la rue. Il a fait ça exprès. Et il sait que les Occidentaux écoutent les opinions. Il y a un besoin de plus de résultats sur le plan de la lutte contre le terrorisme. Les Français l'ont compris. Les intérêts français et les intérêts des pays de la sous-région sont convergents. C'est pourquoi ils ont annoncé l'arrivée de 200 hommes. Bon, sur les 200 hommes, moi, je considère ça comme une goutte d'eau. C'est-à-dire que 200 hommes, qu'est-ce que ça va changer sur le terrain, entre nous? Pour des gens...
Mais déjà,
il y a 4 000 déjà.
Soldats. 4 000, 4 200.
Le Niger et le
Mali. Moi, j'aurais aimé quand même qu'on dise que, ah oui, la France va augmenter 1 000 hommes, par exemple. Là, je veux comprendre que ça, c'est du... Mais 200 hommes... Si c'est juste des gens qui vont faire peut-être que des gens qui vont faire de la transmission, ça veut rien dire. Mais ce qui m'inquiète effectivement, c'est ce qu'a dit Ousseini. Ce que Macron avait dit. Les Américains veulent partir. Mais il faut bien qu'on dise la vérité à ces Américains-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez financé une base de drones à coût de plus de 100 millions de dollars. Et puis brusquement, le secrétaire à la défense, eh bien, il réunit des généraux. On dit non. On va se retirer de l'Afrique. Mais est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils sont? Ils disent non.
Non, c'est juste une intimidation.
Vous savez pourquoi?
Comme il est dans... Voilà, c'est ça.
Non, il faut les prendre au sérieux. Parce que c'est la psychologie de Donald Trump. Donald Trump, c'est le désengagement militaire des Américains. Pour lui, un Américain ne doit pas partir mourir quelque part sur un champ de bataille. Et il n'a rien compris parce que cette guerre-là contre le terrorisme, c'est une guerre mondiale. Et donc, si les États-Unis se retirent d'Agadez, qui est une base stratégique, la base des drones, mais non seulement l'opération Barkhane, comme l'a dit Hussein, elle sera affaiblie, mais pratiquement on donne un signal aux terroristes. Mais quelle est cette intelligence qui a donné cette idée saugrenue au secrétaire américain de la défense qu'il faut retirer? Non mais attendez,
c'est juste une intimidation.
Vous êtes sûr?
Oui. Parce que les Américains, la sécurité, les Américains savent.
Vous savez ce qu'ils ont dit? Vous savez ce qu'ils ont dit? Le secrétaire de la défense a dit, l'état-major qui l'a consulté là, on va enlever les troupes américaines de l'Afrique pour les redéployer vers l'Asie et le Pacifique. Et vous savez pour quelle raison? Pour contrer l'influence de la Chine et de la Russie.
Bien.
Non, attends, soit dit en passant. Quand on dit que les grandes puissances ont toujours des idées derrière la tête quand ils envoient des troupes, ce n'est pas faux. Alors que même au Sahel, il y a des idées derrière la tête, c'est sûr.
Bien. Mais oui, c'est ça. Vous avez, c'est pour un peu dire qu'il y a de l'intimidation derrière cette décision. Vous avez vu Macron, c'est pas pour rien. Macron a dit lors de sa conférence de presse qu'il y a des puissances qui sont en train de manipuler l'opinion. Non, pour dire qu'il y a des puissances qui sont en train de manipuler
l'opinion. Des intimidations pour quelle fin?
Ils savent parce que chacun joue son jeu ici au Sahel. Chacun est venu avec sa mission. Sa feuille de route est là. Oui, en cherchant l'autorisation, déjà la feuille de route est là. Ils savent pourquoi ils sont là. Par exemple, aujourd'hui, quand ils ont décidé de mettre en application la task force pour la région de l'Iptakolo dans les trois frontières, là, Takuba. Takuba, c'est des soldats d'élite. On sait qu'il faut de l'offensive dans cette zone pour un peu, parce qu'on ne peut plus attendre, on ne peut plus être à la défensive. Maintenant, la situation aujourd'hui, Macron est conscient de l'annonce américaine. C'est pour cela que la ministre française, Françoise Parly, est déjà aux États-Unis pour plaider. Pour plaider la cause. Moi, ce que je voulais dire, par rapport à cette rencontre de Pau, c'est vrai, la manière, c'était discours 3, mais quand même, tout ça, c'est fini. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui a été, les gens se sont compris. Macron a compris réellement que le danger, de quitter l'Afrique. Lui-même, il ne va pas oser retirer ses dons. Mais c'est que ce n'est pas suffisant. Il y a un silence qui est là. Il y a certains pays, c'est pour cela nous-mêmes, nous devrons être vraiment des États souverains. Avant, il faut que, quand on met, même si c'est un franc, qu'on s'assure que ces 1 franc là ont servi réellement à l'armée. Il faut que nous financions d'une manière conséquente. Il ne suffit pas seulement de dire 19%, mais les 19% là, on doit être sûr que les 19% ont été dépensés dans le cadre de l'armée, ne pas prendre 4 milliards pour acheter du barbelé.
Oui, 5 secondes, nous sommes à la fin. Ouais. Oui, vas-y.
Rapidement, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin vraiment des autres pour nous aider. Mais il faut, comme l'a dit Issa, que lorsqu'on injecte de l'argent du contribuable...
Que ça puisse être efficace.
Que ça puisse être... Pas efficace, que ça puisse aller là où il faut qu'il aille.
Alassane, en dernier mot, les espaces forestiers qui sont au niveau des frontières là, entre le Niger et le Mali, là, qui servent d'abri aux réfugiés là... Il faut les bombarder.
Fin du forum de la presse. Nous étions en compagnie de nos confrères Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré, Roufaï Dandoua et Hussein Issa, journaliste freelance. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Je suis Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation et la technique a été assurée par Hussein Issa. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes demain samedi et dimanche de 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA et à partir de 18h15 samedi et dimanche le forum sur l'esclavage moderne en Hausa et en Zarma.